France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode de notre série sur Platon et la politique. Nous évoquons le dernier texte de Platon intitulé Les Lois. Ce dernier Platon serait-il devenu moins hostile à la démocratie ? Pourquoi a-t-on l'impression que dans les lois, la vision politique de Platon a changé ? Peut-être d'abord parce que Platon parle régime, élection, répartition des pouvoirs, bref, il prépare quasiment une constitution avec même plusieurs options. C'est très différent de son ancienne proclamation, selon laquelle les philosophes doivent être les rois, sans nous dire comment cela pourrait arriver, sinon par l'intuition intelligente d'un tyran leur cédant la place, ce qui, avouons-le, est peu probable. Et puis, il y a d'autres changements de taille par rapport à son dialogue intitulé « La République ». Platon désormais ne parle plus de propriété entièrement publique, de partage des femmes et des enfants par tous les citoyens, mais il affirme le droit d'avoir des biens privés et une famille. Donc oui, Platon semble avoir évolué. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il amende certains principes sans pour autant renoncer à ses idéaux. Et par ailleurs, tout n'est pas toujours limpide, me semble-t-il, dans ses propositions constitutionnelles, mais c'est sûrement que j'ai besoin de spécialistes pour m'expliquer certains points, cela tombe bien. Voici des invités de haut vol. Bonjour Emmanuel Jouet-Pastré.
Bonjour.
Vous êtes professeur de langue et littérature grecque à l'Université de Lorraine. Vos recherches portent sur l'éthique, la poétique et la politique dans les dialogues de Platon. Et bonjour Dimitri Elmure.
Bonjour.
Vous étiez présent lundi pour ouvrir cette série sur Platon et la politique et nous avions alors évoqué les dialogues du début de vie d'écriture de Platon, le Protagoras, la République. Aujourd'hui, vous fermez le bal, si j'ose dire, en nous éclairant, je l'espère, sur son dernier livre, Les Lois. Vous êtes Dimitri Elmure, professeur de philosophie à l'École normale supérieure à Paris, spécialiste de philosophie antique et tout particulièrement de Platon. Les références de vos travaux à tous les deux sont précisées sur notre site. Alors voici tout de suite, pour entamer notre conversation, un extrait du livre 5 des Lois. Platon suggère qu'il demeure à ses yeux une cité idéale, peut-être celle qui était dépeinte dans la République, mais qu'il lui fallait aussi décrire une cité plus réaliste, qui néanmoins ressemblerait le plus possible à la cité idéale.
Le plus convenable, c'est de dire quelle est la constitution la meilleure, quelle est celle de deuxième rang et quelle est celle de troisième rang. Puis cela établit de donner le choix à celui qui, dans chaque cas, est responsable de la fondation de la cité. À nous donc de procéder maintenant selon cette méthode, en disant quelle est, parmi les constitutions, la première en excellence, quelle est la seconde et quelle est la troisième. Eh bien, tiennent la première place la cité, la constitution et les lois les meilleures, où se réalise le plus possible pour toute la cité le vieux dicton qui veut que, vraiment, tout est commun entre amis. Dans cette situation, qu'elle existe maintenant quelque part ou qu'elle doive exister un jour, les femmes sont communes, les enfants sont communs, les richesses sont communes. Par tous les moyens, tout ce que l'on prétend avoir en propre a été partout retranché de la vie de tous les jours. On est parvenu, dans la mesure du possible, à faire ainsi que les yeux, les oreilles et les mains paraissent voir, entendre et agir en commun, à faire que tous à l'unisson émettent éloge aussi bien que blâme, se réjouissent et s'affligent des mêmes choses. Et jamais personne qui donnerait aux lois qui assurent à la cité la plus grande unité possible n'assignera à la supériorité de la vertu une autre limite qui soit plus juste ou meilleure. Voilà donc quelle est cette sorte de cité. Que des dieux ou des enfants des dieux l'habitent à plusieurs, toujours est-il qu'ils passent leur vie dans la joie de s'y être établis. Dès lors, il ne faut pas regarder ailleurs pour trouver un modèle de constitution. Mais il faut nous attacher à celle-là et chercher dans la mesure de nos possibilités celle qui lui ressemble le plus.
Emmanuel Jouet-Pastré, nous venons d'entendre un extrait du livre 5 des Lois de Platon. Avant, dans sa cité idéale, il le rappelle d'ailleurs, tout était commun entre amis, tout était commun entre amis, les richesses, les enfants, les femmes pour faire ses enfants. Il détestait l'exclusive, la propriété privée et l'amour, si c'est de l'amour d'ailleurs, contraint, en tout cas tout simplement privé, s'il n'est pas toujours contraint quand même. Ça, ce n'est pas rien, ça, c'est pas juste un problème de régime constitutionnel, c'est une vision de la cité qui est radicalement nouvelle maintenant.
Alors, en un sens, oui, elle est nouvelle parce que il s'agit dans les lois de faire une cité pour les hommes, par les hommes. C'est-à-dire qu'à la tête de la cité, il va y avoir des législateurs qui sont des hommes, qui vont devoir persuader tous les citoyens que la vie juste, c'est la vie agréable, et ils vont s'adresser à tous les citoyens. Dans la République, le gouvernement de la République, c'est un gouvernement idéal où il y a à la tête des philosophes. Et donc les philosophes peuvent établir une cité complètement harmonieuse. Complètement harmonieuse parce que toutes les parties de la cité s'articulent entre elles. Donc une cité parfaitement unie, qui ne parle que d'une seule voix, qui n'écoute qu'avec une seule oreille et qui ne voit qu'avec un seul regard. Dans la Cité des Lois, c'est plus compliqué parce que l'angle choisi par Platon, par le vieux Platon, c'est d'éduquer tous les citoyens. C'est en fait l'idée selon laquelle il est impossible de trouver à la tête d'une cité un seul homme qui, toute sa vie, ne soit jamais corrompu et arrive surtout à faire en sorte que les citoyens l'écoute, parce que la question dans les lois, c'est de faire en sorte que les citoyens, non pas simplement obéissent, parce qu'à la tête de la cité, il y aurait un homme juste, ou même des lois justes, il faut faire en sorte que les citoyens, de leur plein gré, arrivent à entendre, arrivent de leur plein gré à suivre des lois justes. Donc en fait,
oui.
Pardon.
Non, au contraire.
On est plus dans une cité idéale, dans le sens où on s'adresse à des hommes et donc on va prendre les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire on va regarder leur nature humaine et cette nature humaine fait que c'est difficile de dire que ils vont tous parler d'une même voix.
Voilà. C'est ce point qui je voudrais quand même vous entendre là-dessus sur l'idée platonicienne de l'unité. Elle est tellement obsédante,
c'est vrai, c'est vrai.
Que quand même avant, et pour toujours d'ailleurs, son idéal reste l'idée qu'il n'y ait aucun espace privé, qu'il y ait un partage de tout, des amours, des personnes avec lesquelles on se reproduit, des enfants. Restons un instant sur cet idéal dont vous me dites qu'il demeure quand même. Qu'est-ce qui lui fait peur dans le privé et dans la pluralité. La pluralité alors, concrète des gens qui ne sont pas tous les mêmes.
L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la pire des choses, déjà pour l'individu, c'est être en désaccord avec lui-même. C'est-à-dire que, on est tiraillé dans tous les sens. Et c'est la même chose dans la cité. Ce qui lui fait peur, c'est la division entre les gens. C'est-à-dire que on aurait des gens, non pas simplement que l'un aime le bleu, l'autre le vert, il faut que tout le monde aime la même couleur. C'est pas ça l'idée. C'est des gens qui ne se respectent pas, qui veulent dominer les autres. Et c'est ça son obsession, si vous voulez, pour l'unité. C'est éviter la division. C'est éviter qu'il y ait des factions qui fassent que y en a un qui va dominer l'autre. Il y en a un qui va l'écraser. C'est cette idée qu'il faut que les citoyens soient unis et qu'ils partagent les mêmes valeurs. C'est ça l'idée. C'est pas de dire il faut une uniformité, il faut une harmonisation, si vous voulez, entre tous les citoyens.
Je vais vous poser la même question, Dimitri Elmer, parce que les amis, tels qu'il est défini dans ce texte, idéalement, il peut y avoir des affects entre eux. Il peut même y avoir, si ce sont des amis qui avec un professeur et un disciple, il y a un peu d'amitié, il peut même y avoir de la sexualité. Ça n'est pas grave, hein, semble-t-il, dans l'idéal pour Platon, pour créer de la cohésion. L'amour hétérosexuel, en tout cas l'acte sexuel de reproduction, puisque c'est, il est quand même grec, c'est un peu comme ça qu'il voit la, la maisonnée, ça, il y a quelque chose qui lui fait peur, dans le fait que, dans l'idée même d'un espace privé.
Oui, il y a une hostilité de... Alors, voilà, je vais dire les choses, comment dire, aborder les choses en complément de tout ce qu'a dit Emmanuel. Platon, c'est un vrai communiste. Mais c'est un communiste sérieux. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est qu'un communiste sérieux, c'est quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire le commun et les exigences de fabriquer du commun. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord avec Platon et on peut penser que le prix est exorbitant. Ça, c'est une question philosophique, c'est autre chose. Mais on ne peut pas lui enlever la cohérence de ce qu'il met sur la table pour dire, voilà, si vous voulez vraiment qu'une cité soit une cité une, et je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, ça ne veut pas dire uniforme, ça ne veut pas dire tout le monde pareil, ça veut dire harmonieuse, avec une certaine homogénéité, mais qui n'empêche pas la différence quand même. Donc si on veut une cité harmonieuse, il faut être capable de comprendre ce qui nous disjoint. Voilà. Dans ces choses-là, il y a notamment la question de la famille. Oui. Et je voudrais juste, mon rôle, c'est pas de défendre Platon, il a pas du tout besoin de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très frappé, moi, de voir, si on regarde un petit peu la philosophie politique contemporaine, on pourrait trouver, même dans des auteurs hyper libéraux, par exemple, Rawls, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, c'est décidément
vrai,
une obsession.
Anglo-américain de la fin du 19e siècle.
Exactement.
Du 20e siècle, pardon.
Ou d'autres philosophes politiques contemporains qui vont dire, mais la famille pose un problème à un certain niveau parce que effectivement c'est un lieu d'élection, c'est un lieu d'exclusion, etc. Et au fond, il faut la force de l'État, la puissance publique pour à un certain niveau, dissoudre les familles. De fait, c'est ça une éducation publique.
Mais de fait, c'est une question politique qui a été travaillée beaucoup en philosophie et théorie politique. Ça,
absolument.
C'est pas du tout une objection.
Et donc, ce que je veux dire, c'est que Platon, il est le premier à lancer cette tradition. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, il faut, je pense, aussi le voir comme ça. C'est-à-dire, bien sûr, il a une quête d'unité qu'on peut discuter. Le premier qui va la discuter, c'est Aristote, en disant, mais en fait, les mesures que Platon produit dans la cité idéale de la République pour unifier la classe des gardiens, en fait, elles produisent le contraire de ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que si on détruit la famille, mais en fait, on va plus aimer personne. Or, il dit que les gardiens doivent être liés par un sentiment d'amitié. Mais comment on peut aimer des gens dont on sait même pas qui ils sont, dont on n'a même pas de rapports familiaux avec eux, etc. En fait, la critique d'Aristote est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Et elle est mauvaise sur un point, c'est que Platon veut étendre le modèle de la famille à l'ensemble de la classe des gardiens.
Et qu'est-ce qu'on fait des esclaves ? Parce que les esclaves, c'était la maisonnée aussi, ça,
oui,
dans le monde grec. Le monde grec voyait dans son espace privé des femmes, des enfants et des esclaves. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait des esclaves dans sa cité idéale ?
Alors, dans la République, comme vous savez, l'esclave est un point complètement aveugle, c'est complètement silencieux. À mon avis, il y en a, hein. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est travaillé, discuté. Dans le politique et dans les lois, en revanche, il y a une place assez définie et l'esclavage existe. Mais c'est...
Donc ça, là-dessus, son idéal n'a pas transformé le rapport à l'esclavage ?
Non. Non, mais alors il y aurait d'autres choses qu'on pourrait dire sur le rapport de Platon à l'esclavage. Si on regarde d'autres questions, par exemple, le petit esclave, comme on dit, le petit garçon dans le Ménon. Pourquoi c'est un esclave qui est interrogé pour démontrer la réminiscence, etc. Bon, ça serait d'autres.
Pour montrer son intelligence.
Voilà.
Cela dit, les esclaves faisaient plein de choses en Grèce, y compris des travaux administratifs intellectuellement difficiles.
Exactement. Donc, non, il n'y a pas de...
Mais là, il serait en commun pour tout le monde, alors. Il y aurait des esclaves pour s'occuper des enfants, pour faire les tâches de ménage de tout le monde, pour faire l'administration encore, puisqu'il la faisait déjà en Grèce démocratique.
C'est là où il y a une différence. C'est là où on peut venir à la question que vous posiez dans le lancement, qui est la distinction entre la République et les lois.
Voilà.
Ce qui est fascinant dans le texte qu'on a entendu là en ouverture, c'est que le texte parle donc de cet idéal de tout est commun entre amis, donc appelons-le le communisme intégral. Il dit bien que c'est le mieux, L'idéal, c'est quand cet idéal communiste se réalise pour toute la cité. Et je veux attirer l'attention sur une chose, ça veut dire que l'idéal qui est ici n'est pas la République.
Dans les lois, ce n'est non, plus la République.
Ce n'est pas la République, ça ne peut
il
pas...
Il a vraiment changé.
Ça, mais attendez, ça ne peut pas être la République. La cité dont il parle et qu'il met au premier rang ne peut pas être celle de la République, puisque dans la République, le communisme n'est pas intégral. Puisque le communisme ne concerne que la classe des gardiens, c'est-à-dire une toute petite frange de la population. La majorité de la population dans la cité idéale de la République, c'est des producteurs, des artisans, des marchands, qui, eux, ont une famille.
Ah bon, il n'y a pas de fin de la famille dans la République.
Il y a de la fin de la famille pour un tout petit groupe de citoyens. Là, le modèle qu'il est en train d'envisager comme le modèle parfait, c'est le communisme partout. C'est-à-dire, au fond, il n'y a plus de propriété privée. Donc, si vous voulez, même la République...
Même dans les lois, il n'y a plus de propriété privée. Alors, j'ai fait un contresens.
Dans les lois, il y a de la propriété privée, bien sûr. Non, pas du tout. Non, vous n'avez pas fait le contresens.
Ah bon.
Il y a de la propriété. Je m'explique plus clairement. Il y a un modèle de communisme intégral. Et il y a deux approximations de ce modèle. Une approximation possible, c'est la cité de la République, où le communisme est réduit à la classe des gardiens. Et ensuite, le reste de la cité a la propriété privée. Et il y a un autre modèle d'approximation de ça, qui est celui des lois, dans lequel, là, pour le coup, il y a la propriété privée pour tous les citoyens, et il n'y a plus la classe des gardiens. Il y a d'autres choses qui se passent. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le communisme intégral, c'est le modèle à partir duquel il réfléchit il réfléchit en approximant les autres cités, elles aussi idéales, auxquelles il pense, celle de la République et celle des lois.
Alors comment ça se lit, les lois? Emmanuel, je vous passerai, j'ai évidemment essayé, c'est pas la question, j'ai même un peu plus qu'essayé, mais comment ça se lit du point de vue du statut du texte? C'est un texte de droit constitutionnel? C'est un texte de philosophie politique? C'est un texte avec plusieurs options ou tout de même une norme essentielle dans le choix du régime qui se formule? Comment prendre ce texte, vous qui êtes spécialiste des textes grecs, et pas seulement philosophique, Emmanuel Jouet-Pastré?
Alors, écoutez, moi je pense que c'est un texte qu'on pourrait appeler philosophie politique, dans la mesure où on a trois interlocuteurs, alors l'Athénien, Mégile et Clinias, qui vont discuter, disent-ils, de la meilleure constitution possible pour les hommes. Et ils vont essayer de construire entre eux, donc c'est l'idée d'une construction politique, de construire entre eux le meilleur régime politique. Et il faut le lire en fait comme une réflexion philosophique sur ce que c'est que construire une cité pour tous les hommes. Donc c'est vraiment une réflexion sur comment on va s'y prendre pour construire une cité proprement humaine. Et donc, il ne faut pas le prendre, je crois, comme un traité constitutionnel ou en tout cas une réflexion sur le droit, parce que le premier matériau de ces trois Athéniens, personnages qui vont réfléchir ensemble sur la meilleure constitution possible humaine, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est le citoyen. Et donc, dans les lois, tout va être pensé pour façonner les mœurs, façonner la façon d'être de ces citoyens pour faire en sorte qu'ils aient envie d'être justes. Donc le premier matériau, c'est l'humain. Et tout va être fait vraiment pour réfléchir au mode d'être, à la façon de vivre des citoyens, comment ils devront se comporter. C'est-à-dire que je crois que l'attention première, c'est sur l'homme. Et ensuite, parce que précisément, on a affaire à des hommes qui, naturellement, ne vont pas être conduits à faire le bien. Alors, il faudra réfléchir aux lois telles que nous, on les entend, c'est-à-dire qui vont être coercitives. Mais vraiment, toute la réflexion dans les lois, c'est comment faire en sorte de s'adresser aux citoyens le plus possible pour éviter cette coercition, pour éviter d'avoir affaire précisément à ce code juridique.
Oui. Voilà. Alors, on trouve des termes qui vont devenir très important à l'époque moderne, intérêt particulier et intérêt général, dans la plupart des traductions on dit comme ça, et évidemment on retrouve là le souci par les lois d'unifier, de faire émerger le général, sachant que les humains ont une propension à se diviser selon leur intérêt particulier qui est terrible. Écoutez cet extrait du livre 9 des lois.
« Il est décidément indispensable aux hommes de se donner des lois et de vivre conformément à ces lois, sous peine de ne différer en rien à tous les égards des bêtes les plus sauvages sous tous les rapports. Et voici quelle en est la raison. Aucun homme ne naît avec une aptitude naturelle à savoir ce qui est profitable pour la vie humaine en cité, et même s'il le savait, à pouvoir toujours faire et souhaiter le meilleur. En premier lieu, en effet, il est difficile de reconnaître la nécessité pour la technique politique véritable de se préoccuper non de l'intérêt particulier, mais de l'intérêt général. En second lieu, à supposer que d'aventure, quelqu'un ait acquis par l'intermédiaire de la technique politique une connaissance suffisante de ce principe naturel, et qu'après cela, il dirige la cité en maître irresponsable, et qui ne rende de compte qu'à lui-même. Il ne saurait jamais rester fidèle à cette connaissance et continuer tout au long de sa vie à donner la première place à l'intérêt général, en subordonnant l'intérêt particulier à l'intérêt général. Bien entendu, si un jour il naissait un homme qui, en vertu d'un don divin, possédait la capacité d'unir l'une à l'autre les deux conditions dont j'ai parlé, il n'aurait besoin d'aucune loi pour régir sa conduite. Car ni loi ni ordonnance n'est plus forte que le savoir véritable, et il n'est pas permis non plus de soumettre l'intellect à quoi que ce soit, encore moins d'en faire un esclave. Au contraire, il doit commander toute chose, si réellement il est par nature véritablement vrai et libre. Mais c'est un fait que la chose ne se réalise nulle part et d'aucune façon, sinon dans une mesure restreinte.
Dans ce texte des lois, Platon dit vers la fin que, évidemment, que les lois doivent nous soumettre pour que le général, l'intérêt général triomphe, mais sur le fond, il pense qu'aucune loi ne doit soumettre l'intellect. Sauf que peut-être nos intellects ne sont pas aussi géniaux que les intellects pouvant être vraiment libres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma question est assez logique. Est-ce qu'on pourra penser comme on veut? Parler comme on veut, j'ai envie de dire un peu comme Spinoza le dira bien plus tard, les actes seront encadrés, voire punis s'ils sont transgressifs à l'égard des lois, mais les paroles, non.
Ah, alors, la question de savoir quelle forme de liberté il y aura dans la cité des lois...
Pour l'expression, oui.
Pour l'expression, ça c'est une question pas facile, je suis pas sûr de savoir très bien comment la trancher, c'est-à-dire que il y a une réflexion sur la liberté dans les lois, ça c'est certain. Et je dirais que c'est une réflexion sur, au fond, ce que j'appellerais la liberté rationnelle, c'est-à-dire le fait que si on nous donne des arguments pour comprendre l'intérêt de la loi et pourquoi elle vise le bien, alors précisément, au fond, on va certes être esclave de la loi, comme le dit la fameuse formule des lois, mais en fait, on va être un esclave consentant, puisqu'on va vouloir se soumettre rationnellement, parce qu'on aura compris l'intérêt de la loi, et d'où l'invention, constitutionnelle des lois, qui est la différence entre la loi et les préambules. C'est-à-dire les préambules, les préludes législatifs convainquent...
Qui justifient.
Voilà, justifient par des arguments philosophiques. C'est comme une sorte d'entretien avec Socrate, mais condensé, qu'on aurait pour tout le monde, alors que sinon, il faudrait parler avec chacun pendant des heures, ça serait très très long. Et puis la loi, qui, elle, a sa fonction prescriptive. Donc, ça, cette forme de liberté-là, elle est hyper importante. C'est d'ailleurs un des écarts avec la République. C'est-à-dire que la question, c'est ce que disait Emmanuel, hein, la question du consentement, donc par conséquent de la question du rôle de la persuasion, devient dans les lois une question centrale. Dans la République, elle est là, mais elle est un peu souterraine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura la liberté d'expression?
Oui. C'est pas sûr, hein, quand même.
Non, ça me semble pas sûr.
N'en a pas trop l'air, quand même.
Alors, en revanche, je comprends pourquoi vous avez posé la question, parce que en écoutant ce texte, on entend quelque chose qui est complètement platonicien, que je trouve toujours assez extraordinaire, qui est, au fond, l'idée de Platon, c'est que la loi de l'intelligence, c'est qu'elle a autorité sur tout, et même sur la loi.
Encore faut-il être intelligent.
Alors, bien sûr, pour Platon, être intelligent, c'est être savant. En général, ça veut dire être philosophe, mais bon, voilà. En tout cas, avoir une vie dédiée à cette partie en nous, qui est la partie rationnelle. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que dans un dialogue qui précède vraisemblablement les lois dont vous avez, je crois, parlé hier, le politique de Platon, il y a cette espèce d'analyse très, très forte qui consiste à dire à la fois à critiquer la loi et à la fois à la réhabiliter en disant, bon, bah, la loi, évidemment, elle peut servir de manière vicariante, c'est-à-dire quand l'homme politique est pas là, bon, bah, il faut bien une loi. Enfin, quand l'homme politique est là avec sa phronésie, c'est sa vraie, son intelligence, en fait, la loi sert à rien, parce que la seule loi qui est véritablement loi, c'est celle de l'intelligence.
Donc ça, c'est assez... celle-ci est peut-être divine et pas vraiment humaine.
Alors,
c'est ça.
Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on sent dans ce texte. C'est un de ces fameux textes qu'on convoque souvent pour parler du pessimisme platonicien. Alors ça, c'est moi, je trouve ça hyper intéressant parce que le pessimisme platonicien ou le réalisme des lois, les deux choses vont ensemble. Hein, il dépend, évidemment, c'est un écart. Ça dépend complètement de ce qu'on pense qu'est l'optimisme de la République. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la République de manière optimiste. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà accepter et considérer comme absolument démontré que la République, c'est un programme politique, que Platon, un jour, s'est dit, tiens, on va faire ça. Et puis après, au fur et à mesure que le temps a passé, il s'est dit, bah, non, finalement, la nature humaine, quand même, bon, est un petit peu difficile. Et comme le disait Emmanuel, voilà, anthropologiquement, quand même, l'homme est pas facile à mener. Donc, on va revenir à des mesures plus réalistes. Ce que dit ce texte de loi 9, là, qu'on a entendu, c'est en fait un truc constant chez Platon, c'est qu'il y a toujours le mieux. Le mieux, c'est l'intelligence.
Et quelques-uns.
Et quelques-uns, le mieux. Et c'est la
et
faveur,
pas tout le monde,
et
ça,
la
c'est
faveur
sûr.
Divine, le hasard. Ouais. Comment on sait, comment on explique Socrate? Comment ça arrive, Socrate? Ben, ça ne s'explique pas. Ça arrive, c'est là. Ça peut arriver. Il dit exactement la même chose dans la République. Simplement, ça, c'est rare.
Bon, alors juste, maintenant, on va parler un petit peu concrètement de l'organisation de la cité en fonction de ce texte, les lois. Rappelons-nous, dans la République, il y avait des philosophes rois, c'est-à-dire les meilleurs, ceux qui ont un intellect qui marche très bien et qui, dès lors, dominent bien les passions et les affects les moins nobles dans l'être humain. Ils sont aidés par des gardiens, des militaires, je sais pas trop comment il faut dire, mais enfin, des sortes de personnages qui ont un thumos, une force d'âme et une force tout court pour mater ceux qui pourraient semer le désordre. Les artisans, les gens, quoi, en fait.
Et surtout l'extérieur, quoi. C'est aussi pour lutter contre les invasions extérieures.
Bon, il y avait plein de problèmes. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien comment ils étaient désignés, ces aristocrates, philosophes, géniaux, royaux. On ne sait pas très bien comment on pouvait les repérer. Ils n'étaient évidemment jamais contrôlés. Bon, là, on se dit, dans les lois, voilà, on va voir des choses. Bon, alors, il nous parle des gardiens des lois. Je trouve, comme ça, comme une novice, que ça ressemble un petit peu, ces gens formidables qui vont garder les lois aux aristocrates, philosophes, rois de la République. Mais, je comprends aussi Emmanuel Jouet-Pastré qu'ils sont élus. Alors, ça répond au problème de la désignation des philosophes rois dans la République. Mais si les gens ne sont pas à leur niveau, comment peut-on imaginer que l'élection va sélectionner les meilleurs ?
Alors, c'est tout le problème des lois, c'est-à-dire que légiférer dans les lois, c'est d'abord éduquer. Et donc, c'est éduquer. Légiférer, c'est éduquer. Oui. Et donc, il va s'agir de prendre les citoyens dès leur plus tendre enfance, y compris même dans le ventre de la mère, qui va devoir, par exemple, se promener parce que ça va donner du mouvement de la vie à son enfant. Donc, dès le début, il va s'agir d'éduquer tous les citoyens pour faire en sorte que leurs affects soient en accord avec la justice, avec la raison. Et dès lors que on va tout faire pour éduquer les citoyens, et ça, c'est vraiment un pan énorme des lois, c'est comment éduquer les citoyens.
Et là, on verra les meilleurs émerger, c'est sûr.
Et dès lors, les citoyens sauront choisir. Si vous voulez, ils n'auront pas la même raison que des philosophes. On ne va pas faire des citoyens des philosophes, parce qu'on sait qu'on n'en fera jamais des philosophes, et c'est même pour cela qu'on a tout un arsenal de lois, parce que, précisément, ils ne sauront pas nécessairement bien se gouverner. Mais on va tout faire pour les éduquer. Et la question de l'éducation, elle est primordiale, et je vais revenir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure. On va éduquer tous les citoyens, c'est-à-dire qu'on va éduquer tout, même toute la cité, les hommes, enfin, les petits garçons, les petites filles, et tout au long de la vie, ça va concerner la cité dans son entier. Pas simplement les hommes. Les filles vont avoir la même éducation que les petits garçons, et même les esclaves, il est dit à un moment qu'ils vont à l'école. Donc il y a vraiment cette idée que tous les citoyens vont être éduqués. Et quand on voit l'Athènes de Platon, c'était simplement... pas tout le monde allait à l'école, c'était quelques riches, on va dire,
qui étaient éduqués. Et les femmes et les esclaves aussi iront à l'école ?
Oui, oui, dans les lois, ils vont à l'école. Et il y a cette attention vraiment à faire en sorte que la cité marche sur ses deux pieds.
D'accord, donc je vois comment on peut aider à voir les personnages les plus aptes, même si ce ne sont pas des philosophes, à être ces vertueux gardiens des lois. Alors maintenant, j'ai une autre... Enfin, sauf si vous voulez compléter, Dimitri Elmure, parce qu'on reste sur ce problème de l'élection, là, qui me travaille depuis hier, là, en préparant cette émission. J'observe aussi dans les lois que, en ce qui concerne l'organe législatif, alors c'est peut-être là que j'ai été trop rapide dans ma lecture, mais il y a quelque chose comme un Sénat, on est d'accord
oui, qui
est, voilà. Alors, les gardiens des lois... décide de comment on désigne les gens au Sénat. Et c'est de nouveau de l'élection, mais censitaire. C'est-à-dire, si je comprends bien, il faut quand même être plutôt parmi les riches pour avoir droit à l'élection. Est-ce d'ailleurs le cas aussi pour bien élire les gardiens des lois ? Qu'est-ce que fait la question du sens pour quelqu'un qui n'aimait pas les richesses et la propriété ? Qu'est-ce que Platon vient nous apporter là en affirmant que le sens, c'est-à-dire le droit de vote lié à un état de richesse, est important ?
Alors, ça va me poser une colle, parce que je ne me rappelle plus exactement...
Je suis désolée.
Non, c'est pas grave, il faut dire quand on ne sait pas. Je ne sais plus exactement quelles sont les conditions. En revanche, juste pour répondre à la question de principe, en fait, qui justifie votre question, de fait, la propriété privée est rétablie.
Oui.
Donc, citoyens... sont propriétaires, alors usufruitiers en fait, d'un lot qui correspond qu'à un lot de terre, donc calculé assez compliqué. Il y en a un certain nombre, il y en a 5040 si je me rappelle bien, mais je ne me rappelle pas trop ça. Hein.
Voilà. Vous avez quand même bonne mémoire à vous.
Mais bon, c'est très long, les mots, tous les détails. Et en fait, et ça, c'est déjà une concession que Platon fait, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, disons, le fait que, bon, ok, les citoyens des lois vont posséder quelque chose dans certaines conditions. Donc, peut-être que cette histoire de sens, dont je me rappelle plus les détails, a un rapport avec ça. Après, je vois bien aussi la question qui est derrière votre question, qui consiste à dire, bon, mais au fond, ok, on avait le philosophe roi, puis qu'est-ce que ça devient dans les lois?
Oui.
Mais, alors ça, pour moi, c'est une question vraiment ouverte. Parce que, au fond, elle présuppose qu'on sache exactement ce que fait cette espèce d'organe bizarre des lois qui s'appelle le conseil nocturne ou conseil de veille, selon les traductions, peu importe.
Et là, il y a les gardiens des lois ce conseil.
Alors, je ne sais plus exactement.
Oui, oui, voilà, vous dites oui.
Voilà, les gardiens des lois, parce qu'il y a les gardiens d'éducation aussi qui sont extrêmement importants, mais eux, je ne sais pas
ils en font partie.
Ils en font partie aussi, voilà, je ne savais plus. Bon, voilà. Donc, il y a ce conseil-là. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Première question qu'on peut poser, mais je n'ai pas les réponses. Est-ce que ces gens-là gouvernent ou est-ce qu'ils conseillent ?
Oui.
On a l'impression, si je me rappelle bien, que quand on en parle un peu au livre 10, ils ont plutôt un rôle de conseiller. Puis quand on y revient au livre 12, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme de direction. Voilà. Donc ça c'est déjà un peu compliqué. Et vous voyez le problème. Au fond, la philosophie, elle est là, dans les lois.
C'est-à-dire qu'ils font un peu tout, voilà le problème. Le problème, c'est qu'ils sont génialement trouvés par une élection qui ne se trompe pas. Ils s'occupent dans des conseils de la pérennité et, semble-t-il, un peu de la cohérence des lois. Alors, ça rappelle un peu l'Aréopage, qui était un lieu où on contrôlait un peu à Athènes, dans une démocratie au tirage.
Oui, c'est très vrai.
Ça rappelle un peu ça. Donc, et en même temps, ils décident comment on pourvoit l'exécutif, quelles sont les règles de désignation du législatif. Ils sont quand même omnipotents.
C'est vrai, mais je pense qu'il y a une raison de fond derrière qui est super intéressante, qui est qu'en fait, dans les lois, quelles que soient les différences, les changements, peut-être l'idée que Platon se fait un peu différent de l'anthropologie ou des capacités humaines, que sais-je, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fond, les lois ne cherchent pas, à mon avis, mais je ne sais pas ce qu'Emmanuel en pense, mais ne cherchent pas à renverser le paysage mental de leurs lecteurs. Je veux dire que c'est tisser d'Athènes,
de concessions à la démocratie
de droit athénien. Louis Gernet a fait un travail monumental il y a plus de 100 ans là-dessus. Donc on sait qu'il y a de tout le droit athénien derrière. Donc Platon, il cherche pas à alors que la République, c'est exactement l'inverse. C'est une manière de couper le lecteur grec de son arrière-fond culturel. Voilà.
Il y a quand même un point où on sort de l'Athènes démocratique. Celle-ci fonctionnait, Emmanuel Jouet passerait fondamentalement au tirage au sort pour les organes représentatifs, que ce fut la boulet, c'est-à-dire l'Assemblée qui prépare les lois, une sorte de législatif, même si elle ne les vote pas. Mais c'est le cas aussi pour les magistrats, mal nommés pour nous, parce que magistrat, ça renvoie au judiciaire, mais magistrat, pour les Grecs, c'était de l'exécutif. Et c'était le cas aussi pour les juges qui étaient tirés au sort au tribunal de l'Élier. Tirage au sort. Il y a eu des contestations de tout cela et des amendements dans l'histoire d'Athènes, mais c'était quand même les grands principes. Les élections prévues dans les lois de Platon sont toutes hostiles au tirage au sort, par définition. Il réhabilite ou il met au centre l'élection et non pas le tirage au sort.
Alors, ça c'est, je crois, à nuancer, parce qu'effectivement, l'élection, mais elle est très souvent matinée de tirage au sort.
Ah,
et ça, elle est très souvent, y compris, alors les prêtres seront tirés au sort, y compris dans la boulée. Il y aura d'abord une sélection faite par l'Assemblée, qui va décider de ses meilleurs membres. Elle va les proposer à la boulée.
C'est le Sénat maintenant,
voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Ils vont être sélectionnés parmi les candidats proposés par l'Assemblée. Il y aura une partie qui sera sélectionnée, une partie qui sera tirée au sort. Et ça, c'est au fond, je crois...
C'est sa concession, ça.
C'est ça. Mais cette concession, elle est très importante. Quand vous parlez de concession, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème des lois, c'est qu'il faut faire en sorte que les citoyens aient envie de bien se comporter, aient envie d'être vertueux. Et on ne peut pas le faire si on ne prend pas en compte leur avis. On ne peut pas le faire si on ne leur donne pas un lot de terre, parce que sinon ils seront pas d'accord. On pourra pas le faire si on va abolir la famille. Donc vraiment cette idée, c'est on prend en compte la nature humaine et on va faire en sorte, si on leur donne un lot de terre, de leur dire il faut la respecter. Il faut la respecter parce que c'est cette terre-là, elle appartient à Déméter avant tout. C'est la mère nourricière. Donc, il faudra avoir ce rapport à la terre, non pas de propriété en faisant ce que vous voulez, mais il faudra que vous la respectiez. Donc, à chaque fois, si vous voulez, pareil pour la famille.
Dimitri Elmure.
Je vais juste rebondir sur ce que disait Mia. Ce qu'elle dit très bien de cette espèce d'équilibre entre des modes d'élection, en fait, ça correspond à là aussi quelque chose qui est très très intéressant dans les lois et pour le coup un écart avec la République qui est vraiment vraiment notable. C'est que quand les lois réfléchissent à ce que doit être une constitution, alors je suis d'accord avec vous que c'est pas un traité constitutionnel au sens le plus pur du terme, mais c'est quand même vraiment de la philosophie politique au sens où on va vraiment vraiment rentrer dans un certain nombre de détails. Un de ces détails, c'est de se dire, mais au fond, une bonne constitution, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est une constitution mixte au sens où, à partir de la réflexion du livre 3 sur l'histoire d'Athènes, de Sparte, etc., on va arriver à dire, au fond, une constitution qui serait correcte, ce serait celle qui mélangerait de la démocratie et de la monarchie.
Plutôt de l'aristocratie que de
l'aristocratie. Oui, de l'aristocratie. Monarchie au sens de l'aristocratie.
Entendu.
Et ça, c'est... Alors là, pour le coup, on peut pas nier qu'il y a, quand même une petite différence par rapport à la critique purement, ultra-critique de la démocratie dans la République. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça explique... Mais la question, c'est est-ce que Platon fait un changement constitutionnel où il réhabilite la démocratie? J'en doute. Ou est-ce que, au contraire, on confère ce que disait Emmanuel, c'est parce que... Il cherche à trouver une constitution qui correspond au possible humain.
Oui, on ne peut pas totalement priver le peuple athénien de ce qu'il a eu si longtemps par cette démocratie.
Exactement. Et d'où la réflexion sur les différentes formes d'égalité, de tirage au sort, d'élection, etc.
Qui concernera, excusez-moi, j'insiste, mais pour plein de gens, c'est vrai que c'est un énorme sujet, pourront être élus et tirés au sort à présent aussi les femmes et les esclaves ou non? Le corps politique, c'est que les hommes, comme dans l'Athènes. Oui. Alors là, au nom de l'habitude, à nouveau, je présume.
Oui. Alors, Il ne faut pas oublier quand même que la République restera toujours le texte de pointe sur le rapport entre les hommes et les femmes.
Il était plus d'avant-garde, là.
Ah oui. Enfin, ah, ouais. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel, mais pour moi, c'est un texte qui, je veux dire, Aristote reculera, les lois reculent, enfin tout, voilà. L'idée de dire que pour être philosophe, ça ne fait aucune différence d'être un homme et une femme, il faut entendre ça. Il faut quand même entendre ce que ça voulait dire à l'époque où ça a été écrit. C'est une idée qui est incroyablement forte, qu'il ne lâche jamais. Et voilà, donc non, ça de ce point de vue-là. Mais voilà, c'est pas forcément un recul, les lois, c'est aussi un autre projet.
Ouais, un autre projet. Ouais. Et pour ce qui est des élites philosophiques, il demeure peut-être, si je comprends bien... une Emmanuel Joué-Passeret, il demeure dans le projet une approche unisexe. Enfin, on peut être toujours, pour Platon, une femme, un homme et même un esclave en philosophie, mais pour la multitude, qui est quand même un vrai sujet dans les lois, on va pas prendre trop de risques. C'est ça.
Alors,
c'est affreux, hein, mais ça, non, je résume trop
alors,
mal là.
Quand même. Je ne sais pas si vous résumez le problème. Ce que je dirais, c'est qu'il y a, dans les lois encore, une attention très forte à l'éducation des filles et l'éducation des jeunes femmes, parce qu'elles vont pouvoir aussi participer aux jeux guerriers, elles vont pouvoir porter les armes, et il est même dit que, regardez, à Sparte, vous donnez une éducation semblable aux filles et aux garçons, mais après, vous les cantonnez dans la vie domestique.
Oui.
Et l'Athénien dit non, dans les lois, on ne va pas les cantonner à la vie domestique, elles vont participer aussi à la vie militaire, et donc elles vont porter les armes. Et il prend l'exemple des Amazones, et il prend l'exemple des Sauromates, qui étaient des femmes guerrières. Donc là, de ce point de vue-là, il leur donne des activités, des tâches semblables à celles des hommes. Voilà. Pour ce qui est quand même, effectivement, du conseil de vigilance, du conseil nocturne, ce sont des hommes. Pour ce qui est des magistrats, ce sont des hommes. Mais l'éducation des tout jeunes enfants, qui est très très importante, eh bien l'attention est portée sur les nourrices, et c'est elles qui vont avoir un rôle primordial, par exemple.
Entendu.
Donc voilà, il y a quand même certaines charges, mais on n'est pas au niveau de la République, et là Dimitri a tout à fait raison.
Nous parlons des lois ce matin, le dernier texte de Platon dans cette série sur Platon et la politique. Nous réfléchissons aux évolutions de Platon, au caractère concret de ce qu'il dit dans les lois pour organiser le meilleur régime possible. Je vous propose à présent d'écouter un autre texte encore des lois, c'est dans le livre 1, où il compare les humains à des marionnettes divines qui exigent quand même d'être bien manipulées, si j'ose dire, pour que leurs affects soient régulés, ou peut-être autre chose. Il parle de traction, vous allez tout m'expliquer après cette lecture.
Représentons-nous chacun des êtres vivants que nous sommes comme une marionnette divine, fabriquée comme un jouet pour les dieux, ou dans un but sérieux, car c'est une chose en vérité dont nous ne savons rien. Mais ce que nous savons fort bien, c'est que les états dont j'ai parlé sont en nous comme des cordons ou fils intérieurs qui nous tirent et qui, étant mutuellement opposés, nous entraînent en un sens contraire vers des actions opposées. Et c'est en cela que réside la différence qui sépare vertu et vice. Notre propos dit en effet qu'il faut suivre constamment une seule de ces tractions et ne s'en dégager en aucune manière, tandis qu'on doit résister à la traction des autres cordons. Et cette traction est celle que conduit le fil d'or et sacré de la délibération raisonnée, à laquelle on donne le nom de loi collective de la cité, tandis que les autres tractions ont la dureté du fer. La première est souple parce que justement elle est d'or, les autres ressemblant à des substances de toutes sortes de compositions. Ce qu'il faut, par conséquent, c'est toujours prêter son concours à la traction la plus belle, celle de la loi. Parce que la raison qui délibère est belle, et parce qu'elle est douce et n'use pas de violence, sa traction a besoin de gens qui soient à son service, afin qu'en nous, la race d'or emporte la victoire sur les autres races.
À Alors, il y a des histoires de traction dans ce texte. Je suis pas sûre de bien comprendre. Il y tient beaucoup, Platon, à cette métaphore. Il y a des tractions de comme des fils d'or, il y a des fils de fer. C'est vraiment littéral. Différent, nous sommes faits de plusieurs substances. Quel est l'enjeu de ce texte, d'après vous, exactement, Emmanuel Jouet-Pastret ?
Je crois que c'est de montrer ce qu'est l'homme intérieurement. C'est-à-dire que c'est un homme qui est tiré par des affects très très puissants, d'où l'image de l'attraction. Il est tiré par la douleur, par le plaisir, par le chagrin, par l'espoir, donc des tas de forces qui le tirent dans tous les sens. Mais à côté de tous ces affects, il y a une instance rationnelle qui peut l'harmoniser. Donc en fait, je crois que c'est l'image de toutes les pulsions, oui. Si on peut, voilà, ou de toutes les passions, tous les affects qui sont en nous, qui va s'agir d'harmoniser pour faire en sorte que on soit l'homme le plus accompli possible. Et on a cette image de la marionnette. En grec, c'est le mot thoma qui veut dire aussi prodige. C'est le même mot qui veut dire marionnette et prodige. Et ce qui est prodigieux, c'est précisément que l'homme qui est habité par toutes ses passions, je crois, puisse être unifié, puisse arriver à se tenir. Et c'est lui qui tire les ficelles. Oui. C'est lui qui décide. Il n'y a pas quelqu'un qui au-dessus de lui.
Oui, sûr, oui. Oui, c'est l'être humain qui fabrique les lois. Attendez, c'est le politique, c'est l'organisation politique qui produit ces tractions ?
Non, ces tractions, elles sont en nous. Hein, cette envie de suivre toujours le plaisir, par exemple,
oui.
C'est en nous. La raison, on l'a aussi en nous, ou alors elle est incarnée dans la loi commune de la cité. Voilà.
Entendu.
Et on va pouvoir vivre harmonieusement si on est éduqué. Et je crois que l'enjeu de tout, de toute cette image de l'homme marionnette, c'est précisément d'assouplir les fils de fer qu'on a en nous, hein, cette envie, par exemple, d'avoir toujours plus. Il va s'agir de l'assouplir, de l'amollir, hein, oui. Pour suivre ce fil de la raison qui, lui, est souple, qui n'use pas de contraintes, et ça c'est très important, parce que dans les lois, on va essayer le plus possible de ne pas contraindre les hommes, parce qu'on va leur donner envie de suivre les lois. Et ça, c'est l'éducation. L'éducation, c'est amollir en fait toutes nos tractions, les rendre souples, hein, les rendre, on va dire, malléables, mais malléables au bon sens du terme, précisément pour qu'on ait envie d'être juste et qu'on suive ce fil de la raison.
Dimitri Elmure, sur ce que je me permettrais d'appeler cette kinésithérapie platonicienne. Pouvez-vous encore nous préciser les choses ?
Alors, moi, je peux en tout cas vous dire ma perplexité par rapport à ce texte. Je ne sais pas si j'avais apprécié grand-chose.
C'est une chose qu'on aime bien chez vous. Vous êtes spécialiste de Platon qui reste parfois perplexe.
C'est-à-dire que c'est un texte extraordinaire.
Ouais.
L'image est extraordinaire. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que l'image est bancale. C'est-à-dire que Emmanuel l'a déjà dit, en fait, c'est une marionnette, mais qui n'a pas de marionnettiste. Ou plutôt, c'est l'homme qui est son propre marionnettiste. Et le début pourrait faire croire qu'en fait, on est les marionnettes des dieux. Pas du tout. Je veux dire, les dieux, bon, on crée ça, c'est. Voilà, c'est comme. Et ce qui est prodigieux, c'est qu'on arrive à s'articuler. Mm-hmm. Voilà. Mais si on va jusqu'au bout de l'image, parce que Platon aime bien qu'on puisse pousser les images jusqu'au bout. En fait, la question que posent aussi les lois, c'est comment, en fait, on va réussir à vivre sans vivre comme un pantin désarticulé. Ça va être ça, la question anthropologique, philosophique, éthique, oui. Et même politique primordiale des lois. Et pour ça, comme le disait Emmanuel, effectivement, il faut être capable d'assouplir ce qui est rigide, autrement dit, l'irrationnel en nous, parce que je pense que vraiment le grand partage qui structure ce texte, c'est un partage entre le rationnel et l'irrationnel. Mm-hmm. Et voilà, première chose. Et donc, comment on va, grâce au rationnel qui est ici représenté par la loi. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais je le dis en passant, c'est un jeu de mots que Platon affectionne beaucoup, mais qui n'est pas un jeu de mots, qui est vraiment une thèse philosophique. Les lois, la cité des lois, est une nomocratie. C'est-à-dire qu'elle est... Elle donne le pouvoir à la loi.
C'est ça le marionnettiste, non ?
Mais attendez, justement, aller jusqu'à la raison, il y a encore une étape qui manque, c'est que pour comprendre pourquoi elle est une nomocratie, il faut comprendre que la loi a pour fonction, dans les lois, le dialogue qui s'appelle les lois, de dispenser l'intelligence, c'est-à-dire la rationalité. Donc la loi est aussi une noocratie.
Ah.
Et donc il fait ce jeu de mots, nomo. Nomocratie, no, c'est ce qui est de l'ordre du nous, donc de l'intelligence.
D'accord.
Donc en fait, voilà, nomocratie, noocratie, c'est deux choses qui vont ensemble, et ça nous le dit ici, la loi, ce qu'il appelle la loi dans ce passage, la loi collective de la cité, c'est au fond la manière dont la raison, effectivement, se dispense, et se dispense jusqu'à nous. Et comme le disait Emmanuel, notre rôle à nous en tant qu'humains, en tant que marionnettes plus ou moins bien articulées, c'est de se laisser tirer par cette corde de la raison et réfréner les autres.
Voilà. Et donc on est d'accord que c'est le système politique, les lois, qui vont aider les marionnettes, si j'ose dire, à trouver leur maître. Pour que les tractions se fassent bien.
Bien sûr, on est esclave de la loi. C'est ça le principe des lois. On doit être esclave de la loi. Esclave, bien sûr, consentant. Puisque sinon, si on n'est pas consentant, c'est qu'on est un esclave au sens fort. Et là, ça, c'est pas possible pour Platon. Voilà.
Écoutez The Temptations, un groupe fondé en 1961 à Détroit dans le Michigan, et cette chanson de 1973 s'intitule Law of the Land, la loi de la terre ou de la loi du pays. C'était notre manière à nous de conclure cette émission sur les lois de Platon. Merci beaucoup Emmanuel Jouet-Pastré et Dimitri Elmure. Les références de vos travaux sont bien sur notre site. Ce sont des travaux nombreux. J'invite les auditeurs à consulter cela. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique Le Fil Philo. C'est une chronique qui est présentée de manière tournante. Et en ce moment, c'est Laurence de Villers qui fait la chronique aujourd'hui. Elle se demande comment être quelqu'un de bien ou bien ne pas l'être en réfléchissant avec l'œuvre d'Emmanuel Kant. Écoutez.
Le fil philo.
Vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien ? Kant vous donne la réponse. Devant vous, Jean-Claude vient de laisser tomber un billet de 20 euros. Il ne l'a pas remarqué. Vous, oui, en revanche. Qu'allez-vous faire ? L'empocher ou le restituer ? 20 euros, après tout, ce n'est pas grand-chose. Il n'avait qu'à faire attention. Et puis, Jean-Claude, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et de l'argent, d'ailleurs, il en a plein. Il en a trop. Mais quand même, vous vous dites que c'est malhonnête. Il y a quelque chose de moche à prendre cet argent qui n'est pas le vôtre. Quelque chose de sournois, de petit. Alors oui, vous hésitez. Et dans cet instant suspendu, c'est toute la morale qui se joue. Le choix fatidique entre le bien et le mal. Car la morale n'est rien d'autre que cela. Ce temps qui semble échapper au temps où les causes qui pèsent sur vous, vous n'aimez pas Jean-Claude, vous manquez d'argent, vous avez toujours été quelqu'un de peu fiable. Tous ces déterminismes paraissent être comme annulés, ne pas devoir compter. Car seul compte, en effet, ce que vous allez décider de faire. Le grand penseur de ce dilemme moral, c'est Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle. Il nous invite à réfléchir à ce que signifie la morale dans son ouvrage « Critique de la raison pratique » paru en 1788. Ce qu'il nous demande de comprendre, c'est que la morale n'est pas un système de prescriptions extérieures. Fais pas ci, fais pas ça, il est interdit de faire ceci, interdit de faire cela. Mais que la morale, c'est tout au contraire une expérience intime de liberté. La morale, une expérience de liberté, vraiment ? Oui, parce que s'il n'y avait pas ce moment d'hésitation éthique, vous empochez les 20 euros ou vous les rendez. S'il n'y avait pas ce moment de suspension, vous ne sauriez pas que vous êtes libre. Vous ne sauriez pas qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi bien empocher l'argent que le rendre. Ce sont ces quelques secondes d'hésitation qui vous font prendre conscience de votre liberté. Mais réciproquement, c'est bien parce que vous êtes libre, et pas seulement soumis aux impératifs d'une éducation, d'une religion, ou même de votre caractère, c'est bien parce que vous êtes libre que vous pouvez hésiter. Il ne tient qu'à vous de prendre l'argent ou de le rendre. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. C'est exactement ce que dit Kant. La liberté est la condition de la loi morale. Autrement dit, la morale ne consiste pas à obéir, mais à choisir, et à choisir librement. Sans cette liberté, vous ne pourriez jamais être tenu pour responsable de ce que vous faites. Vous ne seriez digne ni de louange, ni de blâme. En réalité, la morale est la chose la moins conventionnelle qui soit. Qu'allez-vous faire ? Voler ou restituer, vous dire « après moi le déluge » ou vous sentir concerné, bien ou mal agir, vous abandonner à la violence de la haine ou faire l'effort de respecter. À vous de décider. Allez-vous succomber à la lâcheté ou faire preuve de courage? Allez-vous dénoncer ou laisser faire? Rendre les 20 euros ou les empocher? Ni vu ni connu. Plutôt si, il y aura toujours quelqu'un pour voir et savoir ce que vous faites. Ce quelqu'un, c'est vous-même. Car la morale n'est jamais dictée par d'autres. Elle vient du plus profond de vous. Elle vient du plus intime de votre être. Elle est la voix de votre conscience.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Cassandre Puel, avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Axel Dubois et Victor Mellet. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité!